Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message. Je veux rendre grâce à Dieu parce que je sais une chose, il nous a promis être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et avec tout ce que j'entends, avec tous les cris, avec les calamités dans le monde, Dieu nous dit qu'il y a de l'espoir pour nous et il y a de l'espoir pour toi en particulier. Je veux encourager cette catégorie de personnes-là qui sont face aux persécutions. Persécution physique, persécution morale et persécution spirituelle. Persécution physique dans le sens où on t'adresse d'une manière verbale qui te frustre. Toi, tu penses que tu es qui? Ah, mais ton Dieu là-même, il est où? Ou lui-même, on se moque de toi. Dans cette catégorie de personnes-là. Également, peut-être que toi, on ne se moque pas de toi ouvertement. Mais tes persécutions, c'est dans les songes. Tu fais des songes bizarres où on te poursuit. Ou bien où tu vois que tu es en train de vivre comme une personne pauvre. Ou dans les songes, tu vois que tu es esclave. Ou dans les songes, l'ennemi te fait voir clairement que tu ne vas pas arriver loin. Et que ta vie est égale à zéro. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, mais pourquoi continuer à marcher avec ce Jésus? Ce Jésus-là, c'est la solution à tes problèmes. Ce Jésus-là, c'est l'espoir de ta vie, aujourd'hui, demain et dans l'éternité. Ce Jésus que tu as choisi, pour qui tu es persécuté, rappelons-nous, quand Jésus-Christ a expliqué la parabole des terres, il a dit aux disciples dans le secret que vous voyez la terre où les graines sont tombées et les oiseaux sont venus enlever. Jésus-Christ a dit quelque chose de très intéressant et je veux qu'on puisse lire. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19, Jésus-Christ maintenant explique. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc tu as accepté Jésus-Christ avec joie. Tu as vu que tu étais convaincu que non, il faut que tu puisses arrêter ta mauvaise vie. Tu as été convaincu et tu as accepté la parole de Dieu avec joie. La Bible nous dit, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation comme ce que tu vis maintenant ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Est-ce que tu sais que ce que tu traverses, c'est à cause de la parole de Dieu que tu as reçue en toi? L'ennemi essaie, en train de se battre, en train de planifier pour pouvoir enlever la parole qui a été semée en toi. Parce qu'il sait que cette parole-là, quand elle va être bien assise en toi, quand elle va porter des fruits, tu seras un danger pour le royaume du diable. Donc, il préfère se battre pour enlever cette parole-là. Donc, il envoie ce qu'on appelle la peur. Il envoie le découragement. Il envoie les épreuves. Il envoie la famine. Il envoie la persécution de tout genre. Les rêves, on n'en parle pas. Les sorciers se déchaînent. Tu vois que tu es vulnérable au milieu des gens qui sont puissants. Mais laisse-moi te dire, le véritable est assis sur son trône. Dieu n'est pas fatigué de prendre soin de nous. Tout comme il s'est levé dans le bateau et il a menacé les vagues. Je vois Dieu en train de menacer les vagues de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun démon ne peut se donner devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as choisi maintenant même. Personne ne peut s'arrêter. La Bible nous dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ce Jésus-là devant qui les sorciers fléchissent genoux, que les marabouts fuient. C'est devant qui toutes les portes fermées s'ouvrent. Mais tu vois, il veut seulement que la parole puisse demeurer en toi et que cette parole-là puisse porter des fruits. La Bible nous dit quoi? Ce genre de personne-là trouve en la parole une occasion de chute. Ne vois pas Jésus comme une occasion de chute pour toi. Tu vas me dire, oh, pasteur Esther, je ne peux jamais dire ça. Je ne peux jamais voir ça. Mais pourquoi est-ce que tu es sur le point de rétrograder? C'est parce que inconsciemment, tu te dis, Jésus-Christ ne peut pas me sauver. Et Jésus-Christ ne va jamais salir sa réputation pour quelque chose qui ne peut pas finir. Le combat a été gagné avant même que tu ne commences à marcher avec Christ. Il t'avait déjà appelé, il t'avait déjà sanctifié, il t'avait déjà choisi. À toi de pouvoir passer par le fleuve, par le désert, par les rivières, parce que tu passes, parce que au bout de tout ça, la victoire est ton partage. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Apocalypse? Que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pourquoi veux-tu abandonner maintenant? Il y a l'espoir pour toi. La Bible nous dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Les sorciers vont se lever. Les gens vont te condamner. Mais Jésus-Christ va se lever pour te rendre justice. Tout comme il s'est levé pour calmer les eaux. Il va se lever pour te rendre justice. Oh, je me rappelle encore quand Dieu a révélé à un de ses serviteurs qu'il parlait de moi, ce serviteur-là. Et il disait, est-ce que tu as vu ma servante qui est là? J'ai dû distraire le diable pour pouvoir la sauver. Il parlait de moi. J'ai dû distraire Satan pour pouvoir sauver cette fille-là. Et il y a des démons qui ont fait alliance, rien que pour pouvoir l'atteindre. Mais quel genre de persécution, quel genre de songe et d'attaque je n'ai pas subi? J'ai subi beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques. Je me suis vue dans différentes situations, mais vous savez une chose, je me suis accrochée à la parole de Dieu. Je me suis accrochée à celui-là qui est fort. Je me suis accroché à celui-là qui ne faiblit jamais. Parce que la Bible nous dit que même dans notre faiblesse, là, Dieu est plus fort que notre faiblesse. Je me suis accroché à celui-là qui ne ment pas. Et je vous assure qu'avec les années, j'ai vu les sorciers être confus. J'ai vu les démons être vaincus sous toutes les formes. J'avais tellement de persécutions que vous voyez que souvent que je priais, donc j'étais trop persécuté. Je perdais du poids, j'étais lourde, les gens se moquaient de moi. Je me rappelle encore une de mes cousines là qui m'a dit, toi même là, tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es qui? Et puis l'ennemi va se fatiguer même pour pouvoir mener ce contre toi. À cette époque-là, j'étais maigre, j'étais faible. N'oubliez pas, j'avais perdu ma mère et j'étais vulnérable apparemment. Mais le Dieu d'Israël s'était levé, avait choisi de se lever pour me faire justice, pour attraper ma mère. Lui, le père des orphelins, il m'avait choisi avant même que je ne le choisisse. Je voyais mon cadavre. Voilà, mais vous n'avez pas su beaucoup de choses. Une petite persécution, seulement vous fuyez. Quel témoignage vous allez rendre? Comment est-ce que tu veux que Dieu t'utilise si tu jettes l'éponge maintenant? Si je ne m'étais pas accroché à celui-là qui change de destinée. Je n'allais pas être là pour te prêcher la parole aujourd'hui. Et il y a des gens que Dieu a destinés à qui tu dois parler. Pourquoi vas-tu abandonner? C'est en toi que Dieu a commencé à semer la semence. Subis le processus de difficulté parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Tu ne mourras pas dans ce combat. Je ne suis pas mort dans leurs mains. Souvent, dans les songes, Dieu me mettait au milieu des sorciers. Je suis là comme ça, je les vois eux tous. Mais eux, ils ne me voyaient pas. Et puis, telle personne décide ça, telle personne décide ça. Et puis, il décidait sur moi. Et vous savez, quand je me réveille le matin comme ça, je me lève et puis je commence à détruire. Je dis, je détruis leur agenda, je renverse leurs paroles, je sème de confusion leur camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hey, ça me révoltait. Je ne pleurais pas, je me levais. Je n'étais pas amer contre eux, même si je les connais jusqu'à aujourd'hui. Je me levais et je priais et je détruisais leurs plans. Tu sais ce qui te manque? Tu n'as pas la force de prier. Tu pleures seulement. Parce que tu veux que ce sont les hommes qui fassent ton combat pour toi. Mais personne ne va faire ton combat pour toi. Personne. Lève-toi et prie pour toi-même. Arrête un peu de pleurer. Et prie. Même si les dieux, même si les deux mots-là commencent par P, il y a un qui porte plus de résultats. Et c'est prier qui porte plus de résultats que pleurer. Je voyais l'ennemi envoyer mon cadavre dans la maison de ma mère. Mais je ne savais pas quand je me réveille comme ça. Là, j'ai dit, je communique la vie à cette personne-là qui est en train de mourir. Je communique la vie et je ne savais pas que c'était moi-même à qui je communiquais la vie. Arrête un peu de t'aller de prophète en prophète et de pasteur en pasteur. Reste chez toi et prie. Reste chez toi et prie. Arrête de promener des regards inquiets. Celui-là qui a combattu et qui a protégé Jérémie, qui a protégé Moïse, qui a protégé Gédéon, qui a protégé David, qui a protégé Esther, devant la menace de tous ses ennemis, il va te protéger. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qu'on a compris tous? Tu vas t'abandonner et ébranler jusqu'à quand? Il y a de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, quand je vois toutes ces choses-là, Dieu a permis tout ça pour fortifier ma foi. Oh, il y avait des fois où je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Je me rappelle encore la première année où j'acceptais le Seigneur. Hey, look, c'était pas une mince affaire. Je marche dans les rues, puis je commence à crier Jésus. C'est comme si les sorciers avaient un dernier délai pour m'enlever de la terre. Le 30 décembre de cette année-là. Hey, c'est pas facile. À midi, je voyais mon âme sortie de mon corps. J'étais dans un véhicule et je priais. J'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est prié dans le véhicule? Personne ne m'a répondu. Et je commençais à dire Jésus. Jésus, vous savez, vous n'avez pas besoin de grands mots pour prier. Ayez seulement foi. J'ai commencé à dire Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. La raison pour laquelle tu n'écris pas Jésus, sauve-moi, c'est parce que tu veux que Dieu utilise quelqu'un pour prier pour toi. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je disais, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Et ils se sont dit que non, le 31 décembre, puisque je suis bébé dans la foi, le 31 décembre, j'ai parti encore en boîte comme avant. Mais je n'avais plus le désir d'aller en boîte. 31 décembre, j'étais à l'église. Et pendant que le pasteur prêchait, il y a une présence qui est sortie de mon corps. C'est que le diable avait prévu me tuer cette année avec ça. C'est sorti de mon corps. Et jusqu'aujourd'hui, la délivrance s'est opérée. Même quand les gens m'attaquent, même quand ils sont attaqués de différentes choses, je sais une chose, c'est que Dieu sait avant même que les choses n'arrivent. La Bible est très claire là-dessus. Quand nous prenons un peu le psaume 91, on aime ouvrir notre Bible et puis mettre ça sur notre tête pour dormir. Mais look, la Bible ne marche pas comme ça. Si quelqu'un te dit, si un serviteur te dit, ouvre ta Bible, le psaume 91, et puis mets ça sur ton oreille pour dormir, la personne est en train de te tuer. Ce n'est pas la lettre qui va te sauver, c'est la parole que tu vas lire à l'intérieur et la foi que tu vas y ajouter qui va faire toute la différence. Le psaume 91 nous dit quoi? Car c'est lui, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui va enlever ton âme de tout piège de l'ennemi. Parce qu'il est l'espoir de celui qui se confie en lui. La Bible nous dit que personne ne se confie en l'Éternel et est confus. Personne. Si tu es confus, c'est que tu n'as pas encore la foi. La Bible nous dit quoi? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier, pourquoi? Le bouclier, c'est une arme, si je peux dire, de défense. Quand tu as le bouclier dans ta main, ça te protège des choses qui sont lancées sur toi, des flèches qui sont lancées sur toi. Et une cuirasse, parce que la cuirasse de justice, ça protège la poitrine. Ça va te protéger. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, si Dieu nous dit ici, nous n'allons pas craindre les terreurs de la nuit, les persécutions de la nuit, les combats, les mauvais songes. Il y a des gens même qui se voient dans leurs songes, on a coupé leur tête, le serpent les a mordus, ils sont poursuivis, les chats les a mordus, deux cafards se sont jetés sur eux pour les manger. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, je ne craindrai ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Même si les serpents m'ont piqué, vous savez comment les serpents nous ont piqué, nous étions dans nos sommeils, puis quand on s'est réveillé, mais on a envie. Tu as la puissance dans ta bouche. Arrête de prendre cette bouche-là pour critiquer. Utilise ta bouche pour confesser et pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Confesse la parole de Dieu. Quand tu te réveilles comme ça, là, déclare le psaume 91 parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Ne laisse pas la parole de Dieu de côté et puis toi, tu seras à l'autre côté en train de pleurer. Ne pense pas que la délivrance va venir d'un homme. La délivrance viendra de ta foi à travers Jésus-Christ de Nazareth, de ta foi en la parole de Dieu. Arrête un peu de pleurer. Arrête un peu de dire, pasteur, je suis persécuté. Arrête un peu de dire, quand je me vois dans les songes, je ne sais pas ce que mon avenir va être. Est-ce que tu sais ce que moi j'ai subi pour que je sois là en train de te prêcher la parole aujourd'hui? Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Il y a des fois où tu es là comme ça et puis tu vois, quand je ferme les yeux, je vois des êtres vivants autour de moi. Ils m'encerclent pour se dire, cette fille-là, voilà, tu es aujourd'hui. Mais j'étais toute petite et je suis toujours toute petite. Mais je sais une chose, c'est que quand je me mets en prière, mes ennemis sont confus. Il n'y a pas autre espoir en dehors du nom de Jésus-Christ. Ça, c'est Actes chapitre 4, verset 12 qui nous dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés qui a été mentionné sous les cieux que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nous dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi et rien ne va nous nuire. Qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? Pourquoi ne pas l'utiliser pour te lever et combattre? Dieu ne va pas descendre pour combattre pour toi. Il va utiliser ce qui sort de ta bouche. Et si c'est les pleurs qui sortent de ta bouche, les anges ne seront pas encouragés pour pouvoir se lever pour combattre. Il est temps que tu te lèves pour combattre pour toi-même parce que la victoire t'a déjà été donnée. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un film, le même film, mais plus de 3, bien 4, bien 5 fois. Oh oui, moi j'ai beaucoup de films comme ça que je regarde. 4 fois, 5 fois. Mais vous savez, ma manière de regarder le film la 5e fois est différente de quand je regardais le film la première fois. La première fois, tu es rempli de tension, tu as peur, tu te demandes mais qu'est-ce qui va se passer après. Mais quand tu as regardé le film pour la 3e, la 4e fois, quand les gens qui regardent le film pour la première fois tremblent, toi tu es serein. Voici pourquoi Dieu est serein devant nos persécutions, parce qu'il connaît déjà la fin. Il a déjà vu des situations semblables. Il a déjà vu Satan utiliser les mêmes armes avec les chrétiens. Mais seulement que, comme c'est différentes personnes, on ne voit pas. Il a déjà vu l'ennemi lancer les mêmes assauts. Et Dieu aussi s'est déjà vu utiliser la même parole qu'il a donnée pour sauver l'humanité. Cette même parole-là est à l'œuvre dans la vie de cette personne. Il a déjà vu ça encore. C'est comme si il voit David versus Goliath. Il sait que David a gagné déjà. Donc, look, on n'avait pas besoin d'avoir peur. Il sait que Goliath va tomber. Et il sait que le Goliath de ta vie va tomber. Voici pourquoi. Quand tu cries, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Il t'écoute. Mais il sait que la victoire est déjà là. Il veut seulement que ta foi soit formée. Voici pourquoi tu dois continuer à crier. Parce que si tu ne cries pas, si tu ne persévères pas, si tu n'apprends pas à pouvoir laisser ta foi être bâtie, tu ne pourras pas être le guerrier et la guerrière que Dieu veut que tu sois. Il n'y a jamais d'autorité qui est donnée à quelqu'un sans épreuve. Jamais. Jamais. David a acquis la réputation et l'autorité qu'il a, pas seulement à cause de l'onction, mais à cause des épreuves qu'il a traversées. Et il a traversé ces épreuves-là avec le nom de l'Éternel des armées dans son cœur et dans sa bouche comme confession. Voici pourquoi, quand Goliath pouvait dire, « Mais vous m'envoyez un petit enfant, c'est vrai qu'il est beau de figure, mais je vais le tuer. » Et David lui a dit, « Tu viens contre moi avec les armes et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Et je te dis, toi Goliath, à partir de ce soir, ton corps sera donné en pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. » Et c'est ce qui s'est passé. Il y a de l'espoir pour toi. Si David a utilisé l'arme qui est le nom des armées, ce n'est pas toi qui vas pleurer, tu penses que tu vas avoir la victoire. Tu vas surmonter cette épreuve-là avec Dieu dans ton cœur. Parce que personne ne se confie en l'Éternel et est confus. Personne. Tu ne vas pas te confier en Dieu et puis tu vas être confus. Jamais de la vie. Dieu réserve quelque chose de bon pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu réserve quelque chose de bon pour toi. Essuie tes larmes et ris-toi de l'avenir. Je me rappelle encore un jour où l'ennemi me moi j'ai été trop traumatisé par l'ennemi, là je t'ai dit. J'ai été traumatisé par l'ennemi. Et vous savez, quand je me suis réveillé le matin, parce que quand le matin, j'aime être calme dans mon lit, parce que c'est des temps précieux pour moi avec le Père. J'étais calme dans mon lit. Et puis l'Esprit Saint m'a dit, qui sont ceux-là qui se lèvent contre mon oint? Je me ris d'eux. Je vous assure que le rêve que j'ai eu était terrible. Mais quand Dieu m'a dit qu'il se rit de mes ennemis, j'ai dit, mais attends, mais si Dieu se rit de mes ennemis, qui suis-je pour être inquiet pour ce qu'ils font? Moi aussi, je me ris de mes ennemis. Et j'ai levé la voix et j'ai dit, Seigneur, si tu te ris de mes ennemis, je me joins à toi. Et je me ris aussi de mes ennemis. Je ne les ai plus jamais revus jusqu'aujourd'hui. Je ne les ai plus jamais revus jusqu'aujourd'hui. Décembre est en train d'approcher et tu es rempli de peur. Mais laisse-moi te dire, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, l'armée de Pharaon, les chars de Pharaon, l'armée égyptienne que tu vois aujourd'hui, les sorciers que tu vois aujourd'hui, les persécutions que tu vois aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu ne les verras plus jamais. Parce que tu te dis que devant la mer morte là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sombrer dedans. Parce que restez, tu ne vas pas sombrer. À cause de toi, la mer là va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a déjà fait et il va encore le faire. C'est le même Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui est sage, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne mourras pas. Les sorciers ne vont pas te toucher. Tous les esprits qui ont été calculés, mis en alliance pour pouvoir t'atteindre, ne vont pas te toucher. Tu sais pourquoi? Parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom dans ton cœur. Garde ce nom-là. Ne baisse pas les bras. Et ris-toi de tes ennemis. Quand tu fais un songe qui te rend triste, lève-toi, prends la parole de Dieu, confesse cela, et puis ris de tes ennemis et décide d'être en joie parce que ton Père est vivant Je veux parler maintenant
et encourager
cette catégorie de personnes qui se trouvent dans un cas de maladie quelconque. Ça peut être que la maladie a été diagnostiquée, ça peut être aussi que tu pars à l'hôpital et puis on ne voit pas ce qui se passe. Mais tu es malade dans ton corps. Ça peut être aussi une maladie héréditaire, tout genre de maladie. Je veux encourager cette catégorie de personnes-là. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Et certainement, tu t'es dit, je suis partie à l'hôpital. Pasteur Esther, on a dit que c'est une maladie incurable. On a dit que c'est vrai, on va m'opérer, mais à part ça, il n'y a pas de forte chance que je puisse même marcher encore, que je puisse me retrouver. Il n'y a pas de forte chance que... Pasteur Esther, je viens te poser la question. Depuis que tu as parcouru les 66 livres de la Bible, depuis quand Dieu a parlé et puis il a fini avec « hmm », est-ce que tu sais ce que ton « hmm » l'a veut dire? Non, réponds-moi, est-ce que tu sais ce que ton « hmm » l'a veut dire? Quand tu parles et puis tu dis « hmm », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir, mais seulement que tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire. Vrai ou faux? Ça veut dire que tu es en train de dire que tu es d'accord avec ce que les médecins ont dit, tu es d'accord avec ce que le diable a déclaré, et puis tu finis ça par « hmm », et dans ton « hmm » là, c'est pour dire « hmm », je ne sais pas encore quoi faire au pasteur Esther. « Hmm », c'est ça qui est là-haut, d'après quelqu'un, c'est ça qui est là-haut. Mais ce n'est pas ça qui est là. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a rien de ce qu'on appelle impossible. Impossible n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans le dictionnaire de mon père. Ta blessure peut être grave, ta maladie peut être sérieuse. Mais la Bible me dit quelque chose concernant les maladies. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Toutes tes maladies. La Bible ne nous dit pas quelques-unes de tes maladies, qui guérit toutes tes maladies. Que ce soit diabète, que ce soit hypertension, que ce soit sida, mentionne le nom, que ce soit cancer, que ce soit, quoi encore là, mentionne le nom, palu, éther, fièvre typhoïde, mentionne. La Bible nous dit, et il guérit toutes nos maladies. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Tu n'es pas né avec une maladie. Jésus-Christ a déjà porté ta maladie à la croix de Golgotha. Il y a des personnes qui sont battues avec le cancer et qui ont vaincu. Joyce Meyer, par exemple. Darlene Sketch, donnez-moi un peu son nom là. Elle a vaincu. Il y a des gens qui ont été malades encore et encore et encore et encore. Mais Dieu les a gardés et ils ont vaincu. Pourquoi ne pas confesser le positif? Pourquoi ne pas dire « Jésus, tu es venu pour guérir les malades. Je te donne tout ce qui ne va pas dans mon corps. » Et puis, bien aimé, il est temps qu'on apprenne à prier pour notre santé avant que nous ne soyons malades, avant que le pire n'arrive. Est-ce que nous comprenons? Il y a de l'espoir pour toi. Tu ne mourras pas dans cette maladie-là. Dieu est en train d'intervenir. Vous savez, quand nous passons par des difficultés, Dieu veut tout simplement fortifier notre foi. Amen. Il me dit, mais pasteur Esther, pourquoi est-ce que c'est la maladie seulement qu'il a choisi? Je ne suis pas Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sait comment traiter chacun de ceux qui lui appartiennent. S'il sait que c'est par la maladie qu'il va fortifier ta foi, qu'il va te donner l'esprit de persévérance, il est Dieu et il est souverain. C'est le résultat qui importe. Amen, amen. Jésus-Christ guérit les malades. Il ôte tout ce qui est maladie de nos corps. Oh, je me rappelle encore l'histoire de ce monsieur-là qui est parti au ciel. Il est parti, il est enlevé, il est parti au ciel. Ce n'est pas une histoire des racontards, hein, c'est un truc qui est vrai. Et puis, Jésus-Christ lui a fait voir une grande salle. Il dit la salle était grande. Et quand le rideau a été poussé, il a vu différentes parties des corps humains là-bas. Et puis, il était surpris. Il a dit, ah, mais Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Et puis, le maître de la vie qui lui dit, c'est des parties de remplacement pour mes enfants qui sont malades sur la terre. Il dit, mais tout ça fait quoi ici? Il dit, c'est parce qu'il ne demande pas. Voici quoi la partie qui doit être remplacée là, encore ici. Il ne demande pas. Nous, on court pour aller à l'hôpital pour se faire remplacer dans certaines parties. Mais il y a des parties qui nous appartiennent et qui nous reviennent de droit, qui sont au ciel. On n'a pas encore demandé. Est-ce que tu as demandé un nouveau foie à Jésus-Christ et puis tu n'as pas donné? Tu as demandé et puis tu n'as pas donné. Donc pourquoi est-ce que tu pleures? La Bible nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus-Christ qui nous dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais on ne demande pas. On pleure seulement. On se bat pour trouver une solution pour nous-mêmes. Et quand les solutions n'arrivent pas, on sombre dans le désarroi. Gens de peu de foi. Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous baser sur la parole de Dieu et faire ce qui est juste et faire des déclarations positives sur nous-mêmes, nos propres vies. Arrête un peu de voir le bon chez les autres. Apprends à voir le bon aussi chez toi. Arrête de parler du bien des autres. Apprends également à dire du bien de toi-même et à dire des choses positives parce que la parole a un impact. La parole a un impact, bien-aimé. Amen, amen. C'est la même chose pour la stérilité. Tu es marié, tu veux des enfants. La Bible nous dit que les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Demande-lui, Seigneur, bénis-moi avec un enfant. Il n'y a pas de stérile au ciel. Toutes les personnes qui ont été stériles dans la Bible, Dieu avait fermé leurs entrailles pour une période et par rapport à quelque chose. La seule personne, d'après mon souvenir que je me rappelle, que Dieu a fermé ses entrailles et on n'a pas eu de suite, c'est la femme de David qui s'est moquée de David. Et Dieu a fermé ses entrailles. À part ça, Sarah a eu des enfants, Anne a eu des enfants, Élisabeth a eu des enfants. Dis tout ce que tu veux. C'était pour un temps. Et leurs enfants que Dieu leur a donnés ont été pour le bien du royaume de Dieu. Donc ne t'affole pas et ne promène pas des regards inquiets. Parce que tu ne seras pas stérile jusqu'à la fin de ta vie. Il y a un temps marqué où Dieu va ouvrir tes entrailles. Il y a une femme, je lisais récemment, qui a eu son premier enfant à l'âge de 65 ans. Elle était mariée depuis 23 ans. C'est à 65 ans qu'elle a eu son premier enfant. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? On l'a déjà vu dans la Bible. Sarah a eu son premier enfant à quel âge? Son seul et unique enfant à quel âge? Je ne sais pas ce que tu traverses. Et je ne le dis pas parce que tu te dis, oh, pasteur, tu veux m'encourager, tu veux être gentil. Donc, il y a un temps où je veux être gentil, mais il y a un temps aussi où je veux t'emmener à réaliser que tu n'as pas le droit de sombrer devant les difficultés par lesquelles tu passes parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Et Dieu ne fait jamais rien au hasard. Tu fais partie de son plan. Ton nom est inscrit dans sa paume. Tous les jours de ta vie sont écrits devant lui. Pourquoi est-ce que tu penses que les détails de ta vie sont invisibles devant Dieu? Est-ce que ce n'est pas lui qui nous dit que même les cheveux de nos têtes, tous sont comptés? Est-ce que toi, tu connais combien tes cheveux sont? Toi, tu ne connais pas, mais le maître sait. Et c'est lui qui dit qu'il n'y a aucun cheveu qui tombe sans sa permission. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on pleure? Il y a de l'espoir pour toi qui est stérile. Il y a de l'espoir pour toi qui es malade. Mets ta foi en jeu. Écris des choses positives et confond l'ennemi. Dis à Satan, tu t'es trompé de destination. Prends ta maladie, parce que dans le corps du Christ, il n'y a pas de maladie. Lève-toi, prends la communion, prie et déclare la vie de Jésus-Christ. Et dis que ce qu'il n'y a pas dans le corps de Jésus ne se trouve pas dans mon corps également. Alors que je communie au corps et au sang de Jésus, tout ce qui est anomalie dans mon corps disparaît au nom de Jésus. La guérison arrive, la vie arrive dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, je veux finir avec cette catégorie de personnes qui luttent avec le péché. Tu t'es battu avec le même péché. Tu as dit que tu n'allais pas faire ça. Connais pasteur Esther, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai lié, j'ai délié. Pasteur Esther, le péché là est là, oh, le péché là est là. Tu sombres devant ce péché-là en particulier. Tu n'as pas la force. C'est comme si tu fonds. Il y a des moments où tu vas bien. Il y a des moments aussi où tu vois que tu sombres totalement. Tu te vois en train de faire les mêmes choses dans les songes. Donc, je ne parle pas seulement du péché parce que chacun a quelque chose avec lequel il se bat. Ok? Mais je parle de ce qui te dérange toi en particulier. Et tu te dis, c'est bon. Dieu n'est pas assez fort pour me délivrer de ce péché. Oh, mais je me rappelle de l'apôtre Paul qui a dit que ce que je veux faire, je ne fais pas. Et c'est le mal que je ne veux pas faire là que je fais. Qui me délivrera de ce corps? Mais il a dit aussi que grâce soit rendue à Dieu. Romains chapitre 7. Mais grâce, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il a rendu grâce à Dieu parce qu'il a compris qu'il n'est plus esclave du péché. Et je vais te dire que tu n'es pas esclave du péché. Continue de combattre. Parce que l'ennemi, en te faisant revivre les mêmes choses encore et encore, il a un but, c'est de te faire chuter dans la foi. C'est de te faire abandonner. Par exemple, tu te bats avec le péché sexuel. Tu as des rapports sérieux dans ton sang, genre, il te pose des questions. Hey, quand est-ce que ça va finir, ça là encore? Tu te réveilles le matin, tu dis, yeah, je suis encore mouillé. J'ai encore fait ça. J'ai encore fait ça. Et tu es découragé. Tu dis que tu ne voles plus. Mais te voilà. Ta main touche le téléphone partout où tu passes. Ça devient de les mains sur ton corps. Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas fatigué de toi? Oui. Il ne l'est pas. Et que quel que soit le péché avec lequel tu luttes aujourd'hui, il y aura un temps où tu ne vas plus voir ça dans ta vie. Mais si Dieu permet que tu retombes dans les mêmes choses encore et encore, c'est parce que non seulement il veut que ta foi soit bâtie, et que tu puisses reconnaître que tu n'es rien sans lui. Il y a des gens, s'ils ne retombent pas dans les mêmes choses, ils vont penser qu'ils sont Dieu. Ils vont penser qu'ils sont Dieu. Il y a des avantages et il y a également des inconvénients à ce que tu traverses. Les avantages, c'est que ça te garde humble. Et les conséquences, c'est que tu te sens mal. Ça, c'est l'une des conséquences. Mais Dieu est en train d'intervenir. Une fois, j'ai lu un verset qui m'a fortifié et j'aimerais le lire avec vous. La Bible nous dit en Exode chapitre 23, à partir du verset 29 et 30. Amen. Quand j'ai lu ça, ça m'a fortifié et l'Esprit Saint a ouvert mes yeux pour que je puisse comprendre non seulement ces versets-là et que je puisse davantage persévérer. Exode 23, verset 27, ok? Exode 23, verset 27. « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. » Verset 28. « J'enverrai les frérons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Éthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Verset 30. « Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Dieu peut faire ta délivrance totale le même jour que tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi est-ce qu'il prend son temps et il te délivre petit à petit, petit à petit? Voici la raison. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face. Donc tu vas voir que demain, aujourd'hui, le démon du mensonge part. Après demain, ou bien une autre année encore, c'est le demande de l'égoïsme. Une autre année, petit à petit, petit à petit. Et il a dit, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. La raison pour laquelle les mêmes choses, les mêmes péchés, les mêmes démons nous fatiguent encore et encore, et que Dieu semble être silencieux, c'est parce que c'est vrai que quand nous voyons les choses, nous voyons seulement cet aspect de nos vies-là. Mais il y a d'autres choses que Dieu est en train de former en nous. Et à moins que ces choses ne soient complètement bâties en nous, il y a des choses avec lesquelles on va toujours combattre et Dieu va permettre que ce soit là jusqu'à ce que ce qu'il veut former en toi soit formé. Voici ça qu'il a dit ici. Ce qu'il a dit, il dit jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Il y a des gens, tu n'avais pas encore augmenté en nombre. Spirituellement, tes noms ne sont pas encore établis. Mais totalement, tu te mets prier. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Si je me masturbe encore, c'est que tu n'es plus Dieu. Si je vole encore, c'est que tu n'es plus Dieu. Si je commets encore la fornication, c'est que tu n'es plus Dieu. Attends, depuis quand toi, quand tu commets un péché, ça enlève l'autorité de Dieu? Et vous allez faire changer de camp? Non. Non. Il faut qu'on comprenne que Dieu est à l'œuvre dans nos vies et qu'on apprenne un peu à lui faire confiance, bien-aimé. Il y a des gens, on insulte trop Dieu par notre manière de nous comporter. Il est temps qu'on puisse apprendre à lui faire confiance. À lui faire confiance. Confiance aveugle. Seigneur, je t'appartiens. C'est vrai, tu as vu encore. Je n'ai pas voulu commettre le péché, mais c'est venu. Aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas continuer comme ça. Aide-moi. Au lieu de pouvoir crier sur tous les toits, au lieu de pouvoir menacer Dieu que tu n'existes pas, si tu existais, pourquoi est-ce que je bois toujours? Si tu existais, pourquoi est-ce que ça et ça? Mais il y a des choses qui vont partir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais tu n'es pas encore mort, je te plains pourquoi? Tu as encore des années devant toi. Et la Bible nous dit que nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Il est temps que tu fasses confiance à Dieu et que tu laisses l'Esprit Saint te transformer complètement. Tu le laisses bâtir ce qu'il doit bâtir et en dernière minute, il va enlever ce qui te dérange là. Je viens te dire, Dieu n'est pas fatigué de toi. Aie courage, prends bon courage, prends confiance en Dieu, relève-toi de là où tu es tombé, confesse tes péchés et puis continue de marcher avec le Seigneur parce que ta vie est devant Dieu. Tous les actes que tu poses sont écrits devant Dieu et il sait à quel moment il va te délivrer de ce péché-là qui te fait tellement honte. Donc à toi qui luttes contre le péché, prends courage parce que l'espoir est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relève ta tête, continue de faire confiance en Dieu parce que Dieu n'est pas mort.
Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse. Salut et bienvenue. C'est le pasteur Esther. Merci d'avoir choisi ce podcast. Je crois que Dieu a des choses surprenantes dans ton futur. C'est ma prière que tu reçoives une parole riche et encourageante en écoutant ce message.
Je suis bénie de pouvoir partager avec vous aujourd'hui le message qui a pour thème « Il y a de l'espoir ». Comme le titre le dit, il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir même dans les choses désespérées. Vous savez, une chose que je sais avec Dieu, c'est que malgré son silence, il est à l'œuvre. Dieu n'est pas inactif, il n'est pas au repos, il ne met pas tes prières en stand-by, ou bien en pause comme on le dit. Mais la Bible nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je viens te dire que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Voici pourquoi, même quand il semble être silencieux, ne lui tourne pas le dos. Parce que lui seul sait ce qu'il a préparé pour toi. Il y a une histoire dans la Bible qui me façonne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette histoire-là qui sera notre texte de base. Ok? Allons-y un peu dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. La Bible nous dit, « Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Verset 25. « Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ses hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alléluia. Je vais m'arrêter là. Voici une histoire très intéressante où Jésus était avec ses disciples, et puis... Durant ce chapitre 8-là, ils ont fait beaucoup de choses, ils sont partis guérir les malades, et puis il y a eu beaucoup de choses, ils ont chassé des démons, il y a quelqu'un qui a renoncé à tout ce qu'il avait, et puis quand Jésus-Christ l'a appelé, il a dit, Jésus s'il te plaît, je veux bien te suivre, mais attends d'abord que j'aille enterrer d'abord mon père. Et c'est en cela que Christ lui a dit, laisse les morts ensevelir les morts, toi viens et suis-moi, et ne t'inquiète de rien. Et alors qu'ils étaient en train de partir, Jésus-Christ et ses disciples montèrent dans la barque. Et puis tout à coup, alors que Christ leur a dit, allons-y sur l'autre côté de la rive pour continuer le ministère, voici une très grande tornade, tempête qui s'abat sur le bateau. Jésus-Christ dormait et les disciples étaient affolés. Et ils ont commencé à crier, maître, maître, nous sommes en train de mourir, toi tu dors. D'autres versions le détaillent un peu plus, ok? Toi tu dors pendant que nous sommes en train de mourir. Et c'est comme ça que nous sommes. Quand nous donnons notre vie à Christ, quand nous avons vaincu, je dis bien vaincu, le combat d'être des êtres humains, c'est-à-dire que quoi? Quand nous étions encore au stade informe, liquide, spermatozoïde, nous avons vaincu. Et aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. Et quand Dieu nous fait la grâce d'être sur la terre, il ne nous laisse pas seuls. Il prend le temps de pouvoir mettre des gens autour de nous pour prendre soin de nous, d'une manière ou d'une autre. Quand telle personne décède ou bien ne s'occupe plus de nous, il ouvre une autre porte. Mais toujours en est-il qu'il prend le temps de pouvoir prendre soin de nous. Ça, c'est le côté physique. Sur le côté spirituel, Dieu a les regards sur nous. La Bible nous dit en Proverbe que les regards de l'Éternel sont en tout lieu, tant sur les bons que sur les méchants. Tous, Dieu a ses regards sur nous, spécialement toi. Mais quand il arrive que des difficultés tapent à notre porte, la tempête surgit dans notre vie, quelle est la réaction que nous avons? Est-ce qu'on se souvient que là où on était encore une masse informe, Christ a combattu pour nous, pour que nous soyons en vie, pour que nous soyons des êtres humains. Si Dieu t'avait abandonné, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Quand nous traversons une difficulté, tout de suite, nous paniquons. Pour certains et pour d'autres, ils jettent l'éponge. D'autres, devant une situation qu'ils ne voient même pas l'issue, ils se disent, ça y est, Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris le temps de pouvoir sélectionner quelques difficultés, quelques personnes qui sont passées par des difficultés, qui étaient devant un cas désespéré et que Dieu a fait un miracle. Quelqu'un dit amen? Quand nous prenons un peu l'histoire de la veuve de Sarepta, en 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 9, la Bible nous dit, ça c'est maintenant c'est Dieu qui parle au prophète, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et quand nous allons un peu plus loin, le verset 11, la Bible nous dit, « Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle avait déjà prophétisé sa fin. Elle dit que de la manière dont la famine est dans ce pays-là, voici tout ce qui me reste. Et je suis venue prendre du bois pour préparer à manger. Après ce repas-là, mon fils et moi, on n'a plus d'autre chose à faire que d'espérer la mort. Et Élie lui dit, verset 13, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Prépare d'abord ce petit gâteau, tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » La famine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voici ce que Dieu a déclaré. Vous voulez me dire, mais pasteur Esther, qu'est-ce que tu veux me dire? On n'est pas à l'époque de la veuve de Sarepta. Je viens parler aujourd'hui à quelqu'un qui n'a plus rien. C'est ton dernier centime dans la main. Tu ne sais plus où tu vas dormir. Aujourd'hui, c'est ton dernier mois. C'est dans ton dernier mois. Tu ne sais pas comment payer ton loyer. Tu ne sais pas quoi manger après aujourd'hui. Tu ne sais plus quoi faire. Voici ce que Dieu a fait pour cette veuve de Sarepta. Il a dit que l'huile ne manquera pas. La farine ne manquera pas. Et je viens te dire aujourd'hui, le même Dieu d'Israël qui est à l'œuvre et qui n'abandonne pas ceux qui crient à nuit, jour et nuit, ce même Dieu-là se lève pour te faire justice aujourd'hui. Même si parce que tu es pécheur, tu as prophétisé déjà ta fin, je viens te dire aujourd'hui de la part de l'Éternel des armées que ce que tu traverses là n'est pas ta fin. J'ai dit ce que tu traverses n'est pas ta fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas d'où le secours viendra. Mais Dieu ne permettra pas qu'on te mette dehors de chez toi. Quelqu'un dit amen. Vous savez, nous, le problème avec nous, c'est que on compte beaucoup sur les gens. On compte beaucoup sur les gens. Pour cette veuve de Sarepta, c'était la nourriture, parce qu'il y avait la famine partout. Et nous sommes dans un temps de famine, si je peux dire ainsi, à cause du Covid. Beaucoup d'activités sont bloquées. Beaucoup de choses ont stoppé. Il y a des revenus qui ne rentrent plus. Il y a des choses qui ne marchent plus. Et ça, dans 80% du monde, c'est comme ça. Mais que dit Dieu? Il te dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En d'autres termes, tu auras à manger, tu auras un toit où dormir, et que même si tu n'as pas de travail, Dieu qui n'est pas limité ne permettra pas que tu manques de pain, ne permettra pas que tu dormes à la belle étoile. Quelqu'un dit amen. Je veux prendre le temps d'encourager différentes catégories de personnes aujourd'hui. Et je sais que tu en fais partie. Je veux m'arrêter devant la situation de quelqu'un qui a perdu un parent cher. Papa n'est plus en vie. Ou bien, maman n'est plus en vie. Et tu te dis, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je viens te poser une question. Est-ce que tu sais que la Bible nous dit que Dieu est le Père des orphelins? Nous pouvons le voir dans le psaume 68, à partir du verset 5. La Bible nous dit, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Tu te sens seul. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Voici ce que le psaume 68 te dit à partir du verset 5. Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Être un orphelin, c'est différent de quelqu'un qui a ses parents. Et moi, je suis bien placé pour te dire, bien-aimé, que Dieu va prendre soin de toi. Je parle déjà à quelques personnes qui ont perdu un être cher. Et c'est difficile pour ces personnes-là de se remettre. Souvent, ces personnes-là se disent, mais comment est-ce que telle personne a pu me faire ça? Comment est-ce que telle personne a pu mourir? Est-ce que vous savez que quand Dieu, dans sa miséricorde, prend un de nos parents, ou bien nous prend un être cher, il a déjà prévu la grâce, la miséricorde, la force nécessaire, non seulement pour qu'on puisse traverser cette épreuve-là, mais de deux, il envoie d'autres personnes pour les remplacer. Et il nous donne son Esprit Saint pour non seulement nous fortifier, mais nous emmener à être forts au sorti de ces temps de pleurs. Mais quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Est-ce que nous sommes en train de dire à Dieu qu'on ne veut pas que quelqu'un décède sur la terre? Non, tout le monde va mourir, y compris toi. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai compris qu'aucun être humain n'est permanent sur cette terre-là, n'est définitif et éternel sur la terre. Nous allons tous partir. Ma mère était quelqu'un de vivace. Il n'y avait pas une difficulté que tu allais avoir, qu'elle n'allait pas être là pour t'aider. Et à l'âge de 20 ans, elle est décédée. Et j'avais perdu tout repère. Il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Il n'y avait personne avec qui j'allais parler. Je ne sais pas ce qui allait advenir de mon avenir. Je ne savais pas. Vous savez, un orphelin, quand Dieu dit qu'il est le père des orphelins, c'est-à-dire qu'une fois que tu te retrouves dans cette catégorie de personnes, Dieu automatiquement a doublement les regards sur toi. Et je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu restes abattu? Pourquoi est-ce que tu restes à pleurer jour et nuit? Est-ce que nous pensons que les pleurs que nous, les larmes que nous versons, les pleurs, toutes ces choses-là vont ramener la personne? Sinon, pourquoi ne pas commencer à prendre Dieu au sérieux à un autre niveau? À prendre sa parole au sérieux et à considérer ce que Dieu dit. Psaume 68, verset 5 nous dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur de la veuve. J'ai l'habitude de dire quand je prêche que ce n'est pas notre vie qui va salir la réputation de Dieu. Il a géré des cas des orphelins. Il a géré des situations compliquées avant que tu viennes sur cette terre. Et la Bible nous dit que tous ceux qui se confient en Dieu ne seront point confus. Pourquoi penses-tu que alors que tu te confies en l'Éternel, la confusion est le partage de ton futur? Pourquoi? La vérité, c'est que on dit le nom de Dieu. On va à l'église, on s'appelle chrétien, mais on n'a pas foi en Dieu. Parce qu'on entend que Dieu a fait telle et telle chose pour telle et telle personne, dans telle et telle génération. Mais quand il s'agit de nous, notre vie, on ne lui fait pas entièrement confiance. C'est la vérité. Sinon, on n'allait pas nous comporter de la manière dont on se comporte et on n'allait pas être abattu à chaque fois. J'ai eu le privilège de rencontrer le Seigneur 2 années après que ma mère soit décédée. J'étais découragée. Ma vie avait pris un mauvais tournant. Je m'étais dit en moi-même, je vais coucher avec qui je dois coucher pour s'occuper de moi. Parce que ma mentalité avant, c'était que je vais avoir un homme pour s'occuper de moi. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. C'est comme ça que nous réfléchissons. On veut trouver quelqu'un pour s'occuper de nous. Mais est-ce que vous savez que la Bible nous dit que « maudit est celui qui se confie en l'homme ». Voici pourquoi devant les difficultés de la vie, nous chancelons. Parce qu'on ne met pas notre confiance en Dieu. On pense que nous sommes 7 milliards sur la terre, donc Dieu n'a pas le temps pour nous. Ce n'est pas vrai, il y a le temps pour toi. Moi, Marie-Esther, il a eu le temps pour moi. Et il continue d'avoir le temps pour moi. Et je viens te dire en tant qu'orpheline, qu'il y a de l'espoir pour toi. Même si ton père est décédé, même si ta mère est décédée, et que tu te retrouves seul, et que tu te retrouves abandonné, Dieu n'est pas décédé. Il ne mourra pas. Au fil des années, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans mon âme. Je peux tout perdre, mais mon père, je ne le perdrai jamais. Et quand vous avez un père aussi fort, aussi riche, aussi sage, aussi prudent, et aussi bon manager que Dieu, votre manière de vivre change. Votre manière de réfléchir change. Votre relation avec Dieu change. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on apprenne à voir Dieu. Nous allons toujours être découragés si nous refusons de mettre notre foi en Dieu et en ce qu'il a déclaré déjà dans sa parole. On pleure aujourd'hui. Il est temps de pouvoir essuyer nos larmes et de nous tourner vers celui-là qui a écrit la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous dit que cette parole-là est épurée 7 fois. Elle a passé les tests du temps. Les gens ont cherché à détruire la Bible, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que cette parole-là que Dieu a emmenée pour guérir tout le monde, quelle que soit la situation, vous allez voir que les différents cas que je vais prendre, tout se trouve dans la Bible. Il est le père des orphelins. Je ne sais pas comment. Quel moyen, par qui Dieu va passer pour prendre la relève dans ta vie? Mais je peux t'assurer qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Il veut seulement qu'après que tu aies fini de pleurer, que tu essuies tes larmes, que tu te tournes véritablement vers lui, que tu le prennes comme ton père. Moi, je n'appelle pas Dieu Dieu, je l'appelle père. Je l'appelle père. Un père, c'est quelqu'un qui est responsable. Un père, c'est quelqu'un qui est sage. Un père, c'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins de ses enfants, tant émotionnellement que financièrement. Et Dieu encore, il coiffe le spirituel et le physique. Donc de quoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas donner ton cœur? Pourquoi? Il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé. Essuie tes larmes. Et quand tu te surprendras en train de pleurer encore parce que telle personne te manque, parce que cette personne-là qui est partie te manque, rappelle-toi que Dieu est là. Et le plus tu lui ouvres la place dans ton cœur, le plus tu seras guéri, le plus tu seras béni et le plus tu vas marcher la tête haute. Je veux maintenant parler à cette catégorie de personnes là qui ont abandonné le monde pour se tourner vers Dieu. Et parce que vous avez choisi Dieu, vous avez changé votre manière de vivre. Vous avez abandonné vos copains, ceux qui pourvoyaient à vos besoins. Ça peut ne pas être même les parents qui s'occupent de vous, mais quelqu'un qui pourvoyait à vos besoins, en échange de quelque chose, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez sans support. Parce que vous avez accepté le Seigneur, vous n'avez personne pour vous payer les études. À la maison, ce n'est pas ça, parce que les parents n'ont pas beaucoup. Vous ne savez pas où tourner la tête. Je viens parler à cette catégorie de personnes-là. Vous avez fait le bon choix de choisir Jésus-Christ. Vous avez fait le bon choix de pouvoir choisir la vie. Comme Marthe, vous avez choisi la bonne part. Et je sais que quelqu'un va me dire, mais pasteur Esther, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Et je vais te poser une question. Quand on arrache quelqu'un du feu, quand quelqu'un est prisonnier d'une grande prison et que la personne s'échappe, qu'est-ce qui arrive à la personne? Est-ce qu'il n'y a pas des avis de recherche qui sont lancés partout? Est-ce que les photos ne sont pas collées partout pour dire cette personne s'est évadée de prison? C'est comme ça que nous sommes identifiés dans le monde spirituel. Satan a mis les démons partout et il nous cherche. Il a mis ses agents partout et il nous cherche. Tout ce qu'il peut faire pour nous ramener, il va le faire. Il va le faire. Voici pourquoi la marche chrétienne n'est pas facile. Mais c'est Dieu qui nous a dit, je mets devant vous la vie et la mort et je vous dis, choisissez la vie. Alors que tu as choisi la vie en choisissant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, laisse-moi te dire que devant les difficultés, devant les portes fermées, devant les persécutions, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que toi, mais ils ont persévéré. Laisse-moi te dire, quel témoignage tu vas rendre demain si maintenant là, tu abandonnes tout parce que c'est difficile? Est-ce que vous savez, nous qui parlons et qui prêchons aujourd'hui, que vous aimez tant écouter, est-ce que vous savez quelle rivière on a traversée pour être ici? Est-ce que vous savez? Il n'y aura pas de témoignage sans difficulté. Il n'y a pas de héros sans combat. Il n'y a pas de champion sans adversité. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois quelqu'un qui abandonne. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, il était avec les disciples dans le bateau. Et ce n'est pas eux qui ont décidé de partir, de changer d'endroit. C'est Christ qui leur a dit, allons-y de l'autre côté de la rive. Et ils sont partis. Mais lui, dans le bateau, il a commencé à dormir. Parce qu'il savait que quand il est dans le bateau, il n'y a pas sa création qui va venir détruire le maître de la vie. L'eau ne peut pas noyer Jésus. Rappelez-vous qu'il a marché sur l'eau. Ce n'est pas l'eau qui a marché sur Christ, c'est lui qui a marché sur l'eau. Et les disciples ont commencé à crier, « Mère, ne te préoccupe pas que nous mourons. » Il a dit, « Oh, gens de peu de foi. » Et Dieu vient te dire que tu es une personne de peu de foi aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on crie et on pleure parce qu'on veut que tout comme on avait un homme qui s'occupait de nous, on veut que Dieu envoie un autre homme pour s'occuper de nous. Et parce qu'on ne voit pas les choses comme ça, nous sommes confus. Laissez-moi dire quelque chose. Quand nous acceptons le Seigneur, il y a ce qu'on appelle le désert du chrétien qui est obligatoire. Le désert du chrétien, c'est obligatoire. Tout comme quand Dieu a dit à Moïse, « Fais sortir mon peuple d'Égypte et ils vont passer par le désert. » C'était initialement prévu pendant 40 jours. Mais ils ont pris 40 ans, mais ils devaient passer par le désert. Bien-aimé, ne lâche pas l'éponge. C'est ton désert que tu traverses maintenant. Dieu ne les a pas abandonnés. Ils étaient avec eux. La Bible nous dit que dans la journée, il y avait la présence de Dieu. Dans la nuit également, il y avait la présence de Dieu. Et il y avait ce qu'on appelle la manne pour les nourrir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés dans le désert? C'est les murmures, c'est les plaintes, Oh, quand j'étais à Amis, quand j'étais avant, j'avais un homme pour s'occuper de moi. Si c'était avant, j'étais avec telle personne. Si c'était avant, mes trois copains allaient venir. Un qui payait la maison, un qui s'occupait de mon enfant, et puis l'autre faisait les cours. Pasteur restait, ma vie était paisible. Mais ta vie était paisible sur la terre, mais tu partais à l'enfer. Tu partais à l'enfer. Le désert que tu traverses, Dieu est en train non seulement de t'épurer, mais de t'apprendre à avoir confiance en lui et en lui seul. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais beaucoup de petites amies. Et moi, par la grâce de Dieu, je ne sortais pas avec les enfants, les directeurs de banque, les juges. C'était les personnes avec qui je marchais, les enfants de président. C'était avec eux que je marchais, c'était mon groupe, c'était mon mouvement, ça. J'ai vu l'argent tôt. Mais puisque Dieu voulait me briser et que Dieu voulait m'emmener à avoir confiance en lui et en lui seul, j'ai dû arrêter avec toutes ces personnes. J'ai dû couper les ponts. Et je me rappelle très bien, j'ai dit à mon frère, « Écoute, chérie du cœur, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on sera bien fauchés. » Je ne manquais pas d'argent. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à manquer de tout. À manquer de tout. Et quand je dis manquer de tout, c'est manquer de tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette période de manque et de désert, j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. 1. 2. Ma foi s'est formée. 3. Ma relation avec Dieu s'est bâtie. À tel enseigne qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où je vais me trouver, ces trois choses-là ne vont pas me manquer. Ma relation avec mon Père, ma foi qui a été bâtie et discerner la voix de Dieu dans mon esprit. J'ai eu des temps où j'ai dormi sans nourriture. J'ai habité chez des gens qui ne m'ont pas traité comme je voulais. Je n'avais pas de téléphone. Personne ne m'appelait. Je manquais de tout. J'ai appris à me contenter du peu seulement qui me manquait. Parce que la Bible nous dit que ce qui est important, c'est que nous avons de quoi manger et puis le vêtement pour nous vêtir, c'est tout. Mais beaucoup d'entre nous, la raison pour laquelle nous sommes découragés, c'est parce que nous voulons avoir le même type de vie que nous avions avant. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Si Dieu veut te bâtir en tant que guerrière, il va permettre ces temps de désert-là dans ta vie pour que tu sois la lumière des nations demain. Dieu m'a donné de l'espoir. Dieu a essuyé mes larmes. Dieu a pris soin de moi. La Bible nous dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que Dieu est ton berger? Si oui, dans ces temps que tu traverses, il pourvoira à tes besoins. Peut-être que tu n'auras pas le caviar comme tu veux pour manger avant, mais au moins tu auras la manne qui viendra tous les jours. Tu ne manqueras de rien. Et l'espoir que Dieu va bâtir dans ton cœur sera invincible, fera de toi une personne exceptionnelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici David qui était roi et qui a écrit ça à l'époque, quand il n'avait rien, quand il manquait de tout, quand il était abandonné. Il a appris à développer une relation avec Dieu. Et il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses qu'alors que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu penses que Christ t'a abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il sait ce qu'il a préparé pour toi, bien-aimé. Il sait. Et je viens te dire aujourd'hui, ne lâche pas la main de Dieu. Si moi, Esther, je lâchais la main de Dieu, je n'allais pas être là en train de te parler aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui est différente de ce qu'elle était il y a pratiquement 20 ans. Je ne suis plus cet enfant-là devant les hommes qui pouvaient piétiner. Aujourd'hui, quand je rentre dans ma famille, il y a un certain respect qui est là. Parce que Dieu a fermé leur bouche. Il a permis qu'aucun membre de ma famille ne contribue véritablement à mon élévation et à mon changement. Il m'a fait sortir de mon pays. J'ai subi la faim. J'ai eu soif. J'ai manqué d'argent. Mais dans tout ça, l'Éternel était mon berger et je n'ai manqué de rien. Aujourd'hui, si ce n'est pas que quand je prêche, je rends mon témoignage, je n'allais jamais savoir les rivières par lesquelles je suis passé. Et je rends grâce à Dieu, parce que ces temps de manque, ces temps de pleurs, ces temps d'isolement, ces temps que j'ai subis, de moqueries que j'ai subies, Tout cela m'a permis de pouvoir avoir une relation solide avec Dieu. Et Dieu te dit aujourd'hui, ne lâche pas prise, parce que ce qu'il veut faire de toi, toi-même, tu n'as aucune idée. Tes ennemis n'ont aucune idée. Tes parents n'ont aucune idée. Si tu abandonnes la main de Dieu, tu ne seras pas cette source de bénédiction que Dieu veut que tu sois. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien, bien-aimé. C'est la parole d'espoir que Dieu a pour toi aujourd'hui. Que tu dormes dans les caniveaux aujourd'hui. Que tu sois quelque part où tu n'es pas bien traité. Que tu manques de tout. Qu'il n'y ait personne pour s'occuper de toi. Je viens te dire de la part de Dieu que l'Éternel des armées est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Quelqu'un dit Amen.
Si tu reçois cette parole-là, dis Amen. Et je ne peux pas finir sans toutefois prier avec toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais cette prière-là après moi. Dis, Père éternel, je te dis merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. J'accepte ton Fils Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens et règne en maître dans ma vie. Délivre-moi de tout mal et que ta volonté se fasse dans chaque aspect de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié et je dis Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. J'espère que cela t'a fait du bien. Rassure-toi de souscrire afin que tu reçoives tous les messages. Sache que nous prions pour toi. Dieu te bénisse.